Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Gérard Collomb rentre à Lyon. Son successeur devrait être connu en début de semaine prochaine. En attendant, Édouard Philippe assure l'intérim. Il n'y a pas de crise politique, assure Emmanuel Macron. L'opposition dit tout le contraire. Mascotte robot spatial franco-allemand est arrivé à destination, installé sur l'astéroïde Ryugu. Il en analyse le sol, ce qui pourrait nous permettre de mieux comprendre comment s'est formé le système solaire. La Cour internationale de justice ordonne aux États-Unis de suspendre les sanctions contre l'Iran visant les médicaments, les denrées alimentaires et autres biens répondant à des besoins humanitaires. Une affaire sans fondement, répond Washington. Et puis le dossier de ce journal sera consacré au cancer du sein qui touche 12% des femmes. La campagne Octobre Rose nous rappelle que le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies. Édouard Philippe porte donc la double casquette de Premier ministre et de ministre intérimaire de l'Intérieur. D'ici quelques jours, assure l'Élysée, le nom du remplaçant de Gérard Collomb sera annoncé. Ce matin à Beauvau, la passation de pouvoir a été très froide. Édouard Philippe était en retard. La poignée de main avec Gérard Collomb a été rapide et les deux hommes ont à peine échangé un regard. Pourtant, lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a assuré qu'il n'y avait pas de crise au sommet de l'État. C'est en tout cas ce que rapporte le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Le président de la République a souligné que rien de ce qui se passe depuis 48 heures ne s'apparente à une crise politique. L'État fonctionne, les transformations sont engagées, le gouvernement est parfaitement à sa tâche. Ce que nous traversons est lié à des sujets strictement personnels et il a appelé chaque membre du gouvernement à savoir s'élever au-dessus des intérêts particuliers. Après, on ne va pas se mentir, chacun aurait préféré sans doute que les choses se passent autrement. La vie politique, vous savez, ça n'est jamais un long fleuve tranquille. Un gouvernement, c'est un collectif de personnalités, de gens qui, à des moments de leur vie, peuvent décider d'avoir des engagements. Gérard Collomb a décidé de se tourner vers Lyon et les Lyonnais. Nous respectons le choix qu'il a fait et je crois qu'il sera un défenseur et qu'il portera la transformation que souhaite le président de la République et que porte le Premier ministre comme chef du gouvernement sur le territoire de la métropole lyonnaise. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus.
Benjamin Griveaux au micro d'Alexandra Dubouchereau et le président de l'Assemblée partage la même analyse. C'est la manière qui peut surprendre, explique Richard Ferrand. On peut dire que c'est une rupture non conventionnelle, mais ce n'est pas un drame ni une rupture avec Emmanuel Macron. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
Le gouvernement et La République En Marche ne seraient-ils pas un peu dans le déni ?
Oui, l'exécutif est dans le déni puisque Gérard Collomb n'a averti personne hier qu'il allait présenter une deuxième fois sa démission, ni le Premier ministre qui l'a appris hier après-midi en pleine séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Ni le président de la République, que Gérard Collomb n'a pas non plus tenu au courant de ce qu'il avait raconté aux journalistes du Figaro. Le résultat, c'est un chef de l'État qui est obligé de gérer la situation dans l'urgence et d'improviser. C'est aussi une grande confusion dans les rangs de la majorité à l'Assemblée. Les députés En Marche ne savent plus à quel sein se vouer. Et pour ceux qui ne sont pas dans la majorité, même les plus modérés et les plus constructifs parlent de crise.
On était jusqu'à présent dans l'embarras, maintenant on est dans la crise.
Jean-Christophe Lagarde, député UDI de Seine-Saint-Denis.
Moi, je crois que c'est une crise institutionnelle au sens où nos institutions concentrent trop de pouvoir dans les mains du président de la République et ne permettent pas l'équilibre du pouvoir. Et qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas demander au président de la République de tout faire. Aujourd'hui, il est quoi ? Il est président de la République, il est Premier ministre, il est ministre des Affaires sociales, il est ministre de l'Intérieur, il est ministre de la Défense. Ben non, il faut qu'il y ait une équipe. Et finalement, on a l'impression que Gérard Collomb, il s'en va parce qu'il n'a plus le sentiment de servir à quelque chose. Il a sans doute des enjeux à Lyon. Mais il y a une mésentente entre les deux qui traduit une forme de malaise dans l'exercice du pouvoir.
Pour cet autre député centriste, Maurice Leroy, cette crise est avant tout une crise de l'autorité du chef de l'État.
C'est plus une crise de l'autorité de l'État qu'une crise de l'État, parce que le reste, ça fonctionne. Voilà, on le voit bien, nos services de police fonctionnent. Demain, si le garde des Sceaux démissionne, on ne va pas ouvrir les prisons. Ça fonctionne. Par contre, il y a une vraie crise de l'autorité de l'État. Et il est temps qu'il reprenne le manche, hein, le taulier là-haut. Là.
C'est bien l'autorité du président de la République qui est en cause dans cette affaire. D'abord l'affaire Benalla, ensuite la démission de Nicolas Hulot et maintenant celle de Gérard Collomb montre à chaque fois qu'Emmanuel Macron ne maîtrise pas la situation, qu'il n'a plus prise sur les événements. Gérard Collomb voulait partir, Macron ne le voulait pas, raison pour laquelle il a, dans un premier temps, refusé la démission de son ministre, mais ça n'a pas suffi. Et au bout du compte, le président de la République a perdu le bras de fer qu'il avait entamé avec son ministre. Et puis le deuxième élément de ce qu'il faut bien appeler une crise, c'est qu'on s'aperçoit que le chef de l'État n'a pas de banc de touche, pour employer une métaphore footballistique. Il n'a pas de remplaçant en cas de défection. Son équipe est extrêmement réduite. Il n'a personne de politiquement solide à nommer au poste clé. Raison pour laquelle il va falloir plusieurs jours, peut-être même une bonne semaine, pour trouver un successeur au ministre de l'Intérieur. Et on voit dès lors un Premier ministre qui essaie de tenir la barre, mais qui est bien seul dans la tempête.
Alors quelques jours, mais l'intérim ne peut pas durer. La pression est très forte sur l'exécutif. Gérard Collomb lui-même, au moment de la passation de pouvoir, a tenu à faire passer un message. Il dit quitter un ministère apaisé, mais il souligne les problèmes immenses, selon lui, auxquels son successeur sera confronté. Gérard Collomb.
Je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay. La situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux. Alors il faut à nouveau assurer la sécurité dans ces quartiers, mais je crois qu'il faut fondamentalement les changer. Quand des quartiers se paupérissent, se ghettoïsent, il ne peut y avoir que des difficultés. On ne peut plus continuer à travailler commune par commune. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face.
Gérard Collomb s'empresse de rentrer à Lyon où un conseil municipal devrait acter dans les 15 jours la démission du maire actuel Georges Képénékian. Édouard Philippe a enfilé dès la mi-journée son costume de ministre de l'Intérieur. Il est allé féliciter les équipes policières qui avaient interpellé cette nuit le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd en cavale depuis 3 mois. Malgré cette journée agitée, le gouvernement n'a pas annulé son séminaire sur la réforme des retraites. Le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, briefe les ministres concernés. Il leur présente les principales orientations de cette grande réforme sociale. Mais les discussions sont toujours en cours, Anne Lorchouin. Les contours de la réforme sont donc encore flous.
Difficile en effet de déterminer précisément les contours d'une réforme qui doit être issue à la fois d'une consultation citoyenne, de discussions avec les partenaires sociaux, de la remise de divers rapports et des grandes orientations données par Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Une ligne directrice pour l'instant, cette réforme qui n'est pas dictée par des contraintes budgétaires, dit le gouvernement, sera systémique. Elle a pour but un régime qui soit plus lisible, plus équitable et plus universel. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement souhaite passer des 40 régimes de retraite actuels à un seul régime pour tous, via un système de cotisation à points. Chaque point cotisé donnerait lieu au même droit, laissant à chacun le loisir de partir quand il le souhaite. Plus on travaillera longtemps, plus on accumulera des points et plus on accumulera des points, plus la retraite sera importante. Le but étant de garder le plus longtemps possible les seniors dans l'emploi. Un âge plancher de départ à la retraite serait fixé aux alentours de 62 ans. Le gouvernement travaillera aussi sur une nécessaire simplification des systèmes dits de cumul emploi-retraite, une façon de partir progressivement à la retraite ou de pouvoir revenir dans l'emploi si c'est nécessaire ou si c'est souhaité. Les plus gros salaires, a priori au-dessus de 10 000 euros par mois, seraient priés de capitaliser. À ce stade donc, les interrogations portent surtout sur le calcul de la valeur de ces points retraite qui seront accumulés sur un compte virtuel et calculés selon un coefficient fonction de l'âge de départ à la retraite et de l'espérance de vie de chaque génération au moment de ce départ. Une réforme en tout cas dont on devrait longuement reparler, Aurélie.
Anne Lorchouin et 9 syndicats de retraités organisaient aujourd'hui des rassemblements pour dénoncer l'érosion de leur pouvoir d'achat. Ils réclament l'annulation de l'augmentation de la CSG et une revalorisation des pensions. La semaine dernière, le gouvernement annonçait une série de mesures en faveur des harkis, promettant notamment la création d'un fonds de solidarité pour les enfants de harkis restés dans la précarité. Aujourd'hui, le Conseil d'État condamne pour la première fois l'État à indemniser un fils de harkis. Il a vécu les 12 premières années de sa vie en camp. Et pour le Conseil d'État, les autorités françaises sont responsables des conditions de vie indignes dans lesquelles il a grandi. L'État doit lui verser 15 000 euros de réparation. La Cour internationale de justice rappelle à l'ordre les États-Unis. Elle ordonne à Washington de suspendre les sanctions contre l'Iran visant des biens nécessaires à des fins humanitaires. Les États-Unis ont rétabli des sanctions contre l'Iran début août après s'être retirés de l'accord sur le nucléaire iranien. Pour la Cour, cela constitue une violation du traité d'amitié, de commerce et de droit consulaire de 1955. Médicaments et denrées alimentaires doivent donc pouvoir être librement exportés vers l'Iran, Pierre Benazet.
Selon le traité américano-iranien de 1955, les exportations humanitaires et celles nécessaires à la sécurité aérienne ne pouvaient être bloquées. La Cour ne décidera pas avant des années si les sanctions américaines sont justifiées, mais elle impose provisoirement de réautoriser les exportations des biens concernés par ces chapitres. Encore plus lourd de conséquences potentielles est la deuxième mesure provisoire sur le maintien des licences et des paiements, mesure annoncée ce matin lors de la lecture de la décision de la Cour internationale de justice.
Les États-Unis d'Amérique doivent veiller à ce que les permis et autorisations nécessaires soient accordés et à ce que les paiements et autres transferts de fonds ne soient soumis à aucune restriction dès lors qu'il s'agit de médicaments et de matériel médical, de denrées alimentaires et de produits agricoles, des pièces détachées, des équipements et des services connexes, notamment le service après-vente, l'entretien, les réparations et les inspections nécessaires à la sécurité de l'aviation civile.
Le ministre américain des Affaires étrangères, Mike Pompeo, a entre-temps annoncé le retrait des États-Unis du traité de 1955, mais il n'en reste pas moins que la décision de la Cour internationale de justice complique en théorie l'application des sanctions américaines, puisqu'elle ébranle leur base juridique.
Le Conseil européen, initialement prévu les 18 et 19 octobre, débutera dès le 17 au soir. Les dirigeants européens se réuniront à Bruxelles pour discuter du Brexit sans Theresa May, qui arrivera le lendemain. Pour réussir les négociations, la première ministre britannique appelle aujourd'hui son parti à l'unité. Et au congrès du Parti conservateur à Birmingham, elle a réussi à surprendre Antoine Gignot.
L'autodérision, c'est sa meilleure arme. Quelques mouvements de hanche pour rappeler les pas de danse maladroits il y a quelques semaines au Kenya, puis une blague sur son discours de l'an dernier, ponctué de quintes de toux, mais derrière le sourire, Theresa May garde une voix ferme. Il n'y aura pas, dit-elle, de deuxième référendum sur le Brexit. Mon travail en tant que Première ministre, c'est d'abord de mettre en œuvre le résultat du référendum. Un second vote, ce serait une manœuvre politicienne où on dirait aux gens, vous vous êtes trompés, on recommence. Alors je ne les laisserai pas tomber, et puis nous conclurons un accord bénéfique pour le commerce et la sécurité. La Première ministre promet ensuite une fermeture des frontières et, grâce au Brexit, des lendemains qui chantent avec un envol de l'économie. Après une décennie d'austérité, dit-elle, il faut que les gens sachent que leur travail a payé. Notre dette commence à diminuer pour la première fois depuis une génération. C'est une réalisation historique. Quand on aura conclu un bon accord sur le Brexit, l'an prochain, on augmentera le financement des services publics. Une seule condition à tout cela, précise la Première ministre, en réponse aux appels à la démission, il faut que notre parti affiche une véritable unité.
Antoine Gignot, correspondant de France Culture au Royaume-Uni. Rien ne va plus entre Madrid et Barcelone. Le nouveau chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, pensait pouvoir apaiser les tensions en privilégiant le dialogue avec la région. Mais le président catalan, l'indépendantiste Quim Torra, veut absolument organiser un nouveau référendum d'indépendance un an après celui qui s'était tenu malgré l'interdiction de Madrid. Les précisions de Mathieu de Taillac.
C'est un ultimatum. Pedro Sanchez a un mois pour accepter de discuter des modalités d'un référendum d'autodétermination. Comme l'an dernier, pas exactement, car Quim Torra, le président catalan, veut cette fois-ci un vote officiel autorisé par le pouvoir central, faute de quoi Sanchez n'aura plus de majorité au Parlement espagnol, où siègent 17 députés indépendantistes. À Madrid, la porte-parole du gouvernement en a mis que quelques heures à répondre « oui à l'autonomie ». Non à l'indépendance, fin de citation. La réplique était prévisible, le Parti Socialiste a toujours été ouvert au dialogue sur une évolution du statut de la région, mais fermement opposé à l'autodétermination. Reste à savoir si Torra exécutera sa menace. Pour l'heure, les députés indépendantistes à Madrid ont plutôt souligné leur indépendance vis-à-vis du président de la région. Ils n'avaient pas été prévenus de cet ultimatum et ne l'ont visiblement pas apprécié, car le camp indépendantiste est traversé par des divisions et Madrid croit savoir que ce sont précisément ces tensions qui alimentent la radicalisation de Quim Torra. Quoi qu'il en soit, Sanchez a besoin d'une majorité pour faire approuver son budget. Les 84 députés socialistes dans un parlement de 350 sièges ne peuvent lui apporter aucune stabilité. Si le chef du gouvernement est privé de majorité, il pourrait être conduit à convoquer des élections anticipées qui, selon les analystes, pourraient avoir lieu dès le printemps prochain.
Mathieu de Taillac à Madrid. La mission du robot franco-allemand Mascotte touche à sa fin. Il a réalisé une première en se posant sur un astéroïde à 330 millions de kilomètres de la Terre. Ce matin, il avait commencé par se poser à l'envers sur l'astéroïde Ryugu, mais les scientifiques lui ont envoyé de nouvelles consignes pour qu'il change sa position et ça a fonctionné. Alors, il est encore trop tôt pour avoir les résultats scientifiques, Sophie Becherel, mais sur le plan technique, c'est déjà un exploit. Une nuit blanche suivie d'une journée longue et intense, Vincent Rame le reconnaît. Mascotte a tenu toutes les équipes scientifiques en haleine. Après 3 ans d'attente, le temps du voyage, il est responsable de l'instrument français Micromega à l'Institut d'astrophysique spatiale.
Beaucoup d'émotions, des hauts, des bas, mais bon, c'est normal dans ce genre de mission. C'est tellement rapide, il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de rebondissements. Enfin, on découvre un monde nouveau, donc c'est super excitant en fait.
Le robot de 10 kg n'avait aucun système de guidage. Une fois largué par la sonde Hayabusa 2, il n'avait pas non plus de harpon pour s'accrocher. Malgré cela, il a atterri à l'endroit prévu et une fois remis d'aplomb, réalisé le programme qu'on lui demandait. Mesurer la température, le magnétisme, analyser la composition du sol et faire des photos. Elle commence tout juste à arriver et c'est la surprise.
Un univers très rocailleux, très rude, avec beaucoup de relief. Des arêtes vives, etc. C'est finalement assez surprenant. A priori, on ne s'attendait pas du tout à voir ça il y a de ça encore quelques semaines. On s'attendait plutôt à voir un petit truc genre la Lune, vous voyez, des montagnes avec des régolithes, la petite poussière qu'on voit. Donc ça nous a réservé pas mal de surprises pour opérer ce petit mascotte-là.
Une découverte qui génère de grandes interrogations pour la suite, car l'autre partie de la sonde, Hayabusa 2, doit se poser l'an prochain pour récolter des échantillons. Elle a besoin d'une surface plane de 50 mètres carrés et à ce jour, il n'est pas sûr que cela existe sur Ryugu.
La France et l'Allemagne comptent maintenant développer ensemble un robot mobile pour la mission japonaise MMX, mission qui devrait partir en 2024 explorer Phobos, l'une des lunes de Mars. Détecté de façon précoce, le cancer du sein se soigne à 99%. Pourtant, 12 000 femmes en meurent chaque année en France. La campagne d'information Octobre Rose vient donc rappeler l'intérêt du dépistage. Une femme sur 8 sera touchée avant l'âge de 80 ans. Le risque est plus élevé chez certaines femmes porteuses de mutations génétiques, mais depuis quelques années, il est possible de repérer ces gènes altérés. Tara Schlegel a rencontré une jeune femme qui avait un fort risque de développer un cancer du sein. Élise, 28 ans, a décidé de pratiquer une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation des glandes de mammaires de façon préventive. Écoutez son témoignage, croisé avec les explications de Dominique Stoppa-Lyonnais, responsable du service de génétique à l'Institut Curie.
Environ une personne sur 500, voire peut-être même un peu plus, est à très haut risque de cancer du sein. Pourquoi ? Parce qu'elle est porteuse d'une altération de gènes. Et donc ces femmes ont un risque cumulé au cours de la vie qui est de plus de 70% et avec un âge de diagnostic qui est souvent jeune.
Ma maman a eu un cancer du sein il y a une dizaine d'années. À ce moment-là, elle a fait elle la recherche génétique, donc elle a su qu'elle était porteuse de la mutation et donc elle savait qu'il y avait des risques pour qu'elle nous l'ait transmis à ma sœur et à moi. Donc moi, je suis porteuse de la mutation, ce qui n'est pas le cas de ma sœur. C'était quelque chose auquel je m'étais préparée, hein, mais c'est vrai que bon, bah, quand je l'ai su, on espère toujours y échapper.
Alors, les femmes qui sont porteuses d'une altération de l'un de ces gènes, eh bien, on recommande une surveillance mammaire dès l'âge de 30 ans par IRM, mammo et échographie. Et puis, on se doit de discuter même la chirurgie mammaire de prévention, c'est-à-dire l'ablation de la glande mammaire associée à une reconstruction.
Au début, j'étais pas du tout partie pour faire une chirurgie préventive. Tous les 6 mois d'avoir des contrôles, je trouvais que c'était très lourd, que ça deviendrait assez lourd moralement. Au fur et à mesure que passaient les années, je me suis dit que j'aurais de plus en plus peur qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle au cours de l'un de ces examens. Et c'est vrai que moi, je me disais que au moins en faisant cette chirurgie, je serais un peu débarrassée de cette épée de Damoclès, que le contrôle, c'était bien, que ça permet de prendre la maladie à temps si on est malade, mais que le seul moyen de l'éviter ou en tout cas vraiment de diminuer le risque, c'est l'ablation.
Alors, c'est difficile de recommander systématiquement la chirurgie mammaire parce que d'abord, l'essentiel des cancers du sein se traite. Ensuite, on a de nouveaux traitements, notamment les inhibiteurs de PARP, ce sont de nouvelles molécules. Donc, du fait des capacités de dépistage précoce, de traitement, du fait aussi de l'impact sur l'image corporelle d'une chirurgie mammaire, même si le résultat esthétique est de qualité, eh bien, on ne s'autorise pas à recommander ce geste. Et c'est pas la même attitude sur l'ovaire, où là, c'est une recommandation que nous faisons.
Alors, je suis très contente de la décision que j'ai prise. Je le regrette pas du tout. C'est quand même véritablement un soulagement. Après, c'est un processus qui est assez long, en fait. Moi, j'ai été opérée une première fois en octobre 2017 et depuis, j'ai eu 2 interventions. Et je vais sûrement en avoir une quatrième pour essayer de vraiment reconstruire les seins de la meilleure manière. pendant ma période de réflexion, j'aurais aimé pouvoir discuter avec des femmes peut-être un peu jeunes comme moi qui se posaient les mêmes questions au même âge. Et j'ai connu l'association Génétique Cancer assez tardivement, à un moment où finalement j'avais déjà pris ma décision. Et c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir discuter comme ça avec des femmes. Donc c'est pour ça qu'en fait je me suis inscrite dans cette association pour les femmes qui sont porteuses de mutations génétiques, qui ont été malades ou qui n'ont pas été malades comme c'est mon cas, pour pouvoir avoir un espace de parole et d'échange.
Cancer du sein, c'est gène qui condamne, c'est le titre de l'article signé Tara Schlegel que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. Le soleil revient demain. L'après-midi, seul l'extrême nord de la France conservera un ciel nuageux. Il fera entre 5 et 18 degrés le matin, 12 à 23 degrés l'après-midi sur la moitié nord, 23 à 28 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.